Ensemble, dans Genèse, au chapitre 22, si vous étiez là en première partie, vous avez participé à la lecture, on l'a lu au complet. Là, on va prendre le moment, je dirais, fatidique, le climax, le sommet de cette histoire. On a souligné déjà que Abraham a dit « on va aller adorer et nous reviendrons ». Il y avait la foi qu'elle allait revenir, il y avait la foi que Dieu allait s'occuper de tout ça. On apprend en fait dans Hébreu que, c'est dans Hébreu, qu'il croyait que par une sorte de résurrection, Dieu allait rendre la vie. Il savait que Dieu avait un plan, tu sais, il savait pas tout, mais il savait que Dieu allait s'occuper de tout, par exemple. Donc, on va lire à partir du verset 9 jusqu'au verset 14. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit « Abraham, Abraham ! » Il répondit « Me voici. » L'ange dit « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier, et il offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Yahvé Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. On te remercie, Seigneur, de ce que nous avons, cette image puissante de la rédemption en Jésus-Christ, préfiguré ici avec Abraham et son fils. Et Seigneur, on veut te considérer ce mois-ci, en juillet, comme étant notre rédemption. C'est ce que tu nous dis dans ta parole, que tu es notre rédemption. On te prie, Seigneur, que tu ouvres les yeux de notre intelligence, de notre cœur, et que tu inclines notre cœur à avoir la même obéissance, la même foi qu'Abraham l'a exprimé. Il n'a pas compté toutes les choses qu'il pouvait avoir dans ses raisonnements, mais il t'a fait confiance. Et Seigneur, tu l'as récompensé. Et on sait que c'est la seule manière de t'être agréable, c'est par la foi. Alors qu'on entende ces choses, pas juste pour les entendre, mais qu'on y ajoute foi. Qu'on les prenne pour nous autres, que tu as pour chacun de nous ici. Merci Seigneur que tu connais les besoins de chacun et que tu peut les combler tous. Seigneur, on vient à toi parce qu'on est dans le besoin, mais merci que tu pourvois. Tu es la provision. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Donc, on a ici, je le disais tantôt, la première des photos, si vous voulez, parce que je vous l'ai dit, c'est comme l'album photo de la rédemption. Où est-ce qu'on va voir des images? Je vais voir puis je vais vous le dire tout de suite, là, ça va être quoi les images? Fait que ceux qui se demandent, en plus, il y a des gens qui l'avaient déjà dit, je pense, mercredi. Ici, on a la première image avec Abraham et son fils, qui est évidemment une image du calvaire, de la croix, de Dieu qui a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, hein? Et donc, pour ce message et pour les deux prochains, on va regarder dans l'album photo de la rédemption pour comprendre, pour voir, puis je dirais pour être même saisi de toute la richesse, la puissance de ce thème du mois de juillet, Christ, notre rédemption. Parce qu'on va voir dans chacune de ces photos que c'est une révélation non seulement du plan rédempteur de Dieu qui est progressif, okay, qui rajoute toujours une couche de plus, mais aussi c'est la révélation progressive de Dieu lui-même dans son caractère rédempteur. Parce que les buts du plan rédempteur sont révélés de plus en plus à mesure que l'histoire de la rédemption avance. Et ça nous révèle donc de plus en plus le Dieu rédempteur dans toute sa plénitude. Et on sait que ce Dieu nous est révélé pleinement dans la personne du Fils. Et ça, c'est pas moi qui l'invente, ça vient de la parole de Dieu. Ça dit que le Fils, il est venu comme ça, puis il dit, il est le corps de la tête de l'Église, le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier, car Dieu a voulu faire habiter en lui toute plénitude en lui, Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre, ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de la croix. Voyez-vous, la culmination de toute cette rédemption est en Dieu le Fils, Jésus-Christ. Maintenant, la première photo, c'est celle d'Abraham et Isaac. Et on l'a déjà vu, hein, c'est, ici ça dit Yahvé ou Jéhovah, Yahvé Jiré, Dieu pourvoira. On l'a vu dans le texte au verset 14. La semaine prochaine, la deuxième photo, ça va être avec le livre de Ruth. Ah, j'aime ce livre. Et c'est une autre image puissante de Jéhovah Oshia. Savez-vous, un des noms de Jésus-Christ, Oshia, là, c'est toute la racine par rapport à Jésus sauveur. Et tu sais, quand les gens disaient « Hosanna » à celui qui vient, là, ils disaient littéralement « Oshiana ». OK? C'est l'idée, c'est « Dieu sauve maintenant ». Et c'est Jéhovah Oshia, c'est le Dieu qui sauve, le Dieu qui délivre, le Dieu qui restaure. Et c'est une belle image de tout ça. Surtout à l'époque de Ruth, c'est l'époque des juges, ça allait mal. C'était un des pires moments de l'histoire de la rédemption. Et comment Dieu sauve, comment il restaure, comment il amène l'espérance, l'espoir dans ces temps-là. Et la troisième photo, ça va être avec le livre d'Osée. Jéhovah chasse, dit, l'Éternel aime, rachète, réconcilie. Donc, ça va être les trois images qu'on va voir ensemble. Et Jéhovah ou Yahvé, savez-vous, si on parlait en hébreu, là, je ne sais pas trop comment je le prononcerais, là. En fait, il ne voulait même pas le prononcer tellement c'est sacré ce nom-là. Le nom de Dieu, Dieu a plusieurs titres, mais il y a un nom. Et son nom, là, tenez-vous bien, là, c'est YHWH. Essayez de me prononcer ça, là. C'est pour ça qu'on dit Yahvé. Il n'y a pas de voyelles, c'est juste des consonnes. Mais c'est bien traduit en français avec l'Éternel. Le « Je suis », l'Éternel. Dieu, il est toujours là, il a toujours été là, il va toujours être là. L'Éternel. Ça, c'est son nom relationnel. Donc, on voit Jéhovah Jiré, Jéhovah Oshia, Jéhovah Chasdi. Tout ça, ça nous montre comment Dieu est relationnel. C'est son nom de l'Alliance. C'est le nom qui nous parle de sa fidélité, de l'espérance qu'on peut avoir à cause qu'il est l'Éternel. Il ne change pas. Donc, c'est ça qu'on voit dans les récits qu'on va voir ensemble. Comment Dieu est fidèle, il ne change pas. En passant, même dans les moments les plus sombres, c'est le nom que Dieu utilise dans Job. Après que Job a eu toute sa grande épreuve en ayant tout perdu, puis ses amis qui étaient des consolateurs fâcheux, Dieu se révèle du sein de la tempête en se nommant l'Éternel. Et ça frappe parce que tout le long, il y a des noms qui étaient utilisés pour Dieu. Le Très-Haut, le Tout-Puissant, des noms un peu épeurants pour Dieu, là, tu sais. Le Dieu qui est au-dessus de toute chose. Mais là, il se révèle à Job comme étant le Dieu de l'Alliance, le Dieu de ses pères, le Dieu qui ne l'a pas abandonné, le Dieu qui lui donne de l'espérance. C'est une puissante illustration de la signification de ce nom. Donc, je suis vraiment content qu'on considère ensemble Christ, notre rédemption, dans le mois de juillet. Et j'espère que ça va nous donner une appréciation, non seulement de la rédemption de Dieu, mais de notre Dieu rédempteur. Et on va commencer avec la photo, si vous voulez, de Genèse 22, qui est riche en signification et en portée christologique. Ça nous parle de Christ tellement puissamment. On va simplement regarder trois faits importants à considérer avec cette première image, ou si vous voulez, cette première photo. D'abord, la place de cette image. Quelle est la place de cette image? Bien, ici, on a un récit qui nous amène la place d'ouverture dans le plan rédempteur. Puis là, je vous explique, évidemment, la rédemption, je l'ai référé tantôt, là, ça a été initié dès la chute. Okay? Dans un état embryonnaire, on avait déjà tous les éléments de la rédemption, le premier sacrifice qui a été fait, hein, il y a la promesse de la postérité qui allait sauver, mais aussi, aussitôt que le péché est rentré, Dieu a sacrifié un animal afin de couvrir la nudité de nos premiers parents. Tout ça pointe encore à Christ, hein, qui est le sacrifice qui nous couvre, qui couvre notre nudité. Et il y a eu après ça du temps qui s'est passé, et ici nous avons la naissance, après tout ce temps de gestation, si vous voulez, du premier fils officiel de la lignée messianique. Il y en a eu d'autres avant, mais là, c'était clair, c'était net. Dieu avait mis Abraham à part, puis il a dit, ça va être à travers ta famille, puis là, ici, c'est le fils promis, OK? Puis là, tout ça, je prends ça de ce que Dieu a dit lui-même dans Genèse au chapitre 15. À partir du verset 3, ça dit « Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles. » En parlant, c'est pas lui, c'est pas Ishmaël. C'est lui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Donc, c'est tout le commencement de la lignée officielle messianique. C'est la promesse de la rédemption qui allait venir par un rédempteur issu de cette lignée généalogique. D'où tout le concept du proche parent rédempteur, le Goël, pour ceux qui connaissent l'hébreu, qu'on va voir d'ailleurs, c'est vraiment l'expression clé du livre de Ruth. Mais on ne va pas prendre d'avance. On va regarder ça pour la semaine prochaine. Mais j'aimerais juste dire avec ça ici, la place d'ouverture du plan rédempteur de Dieu dans son... c'est tout début ici. J'aimerais souligner qu'on voit la bonté de Dieu qui restaure ce qui a été perdu dans la première famille. La première famille, they blew it. Ils l'ont échappé. Pas à peu près. Puis on a les conséquences. En Adam, nous sommes tous morts. Mais Dieu prend une nouvelle famille qui désigne pour porter la promesse de rédemption, de délivrance. Donc, il y a déjà ici quelque chose de vraiment grand et de merveilleux. Mais il y a encore plus. Et je dirais même avant ça, il y a la restauration de ce que Satan avait attaqué dans le caractère même de Dieu. Parce que dans le jardin, Satan s'est attaqué à un trait de caractère de Dieu tellement important qu'ici on voit dans notre récit la bonté de Dieu. N'est-ce pas que Dieu, quand il a fait sa création, a dit « c'est bon, c'est bon, c'est bon ». Puis là, il a fait l'homme, il a dit « c'est très bon ». Dieu montrait sa bonté par là que tout ce qu'il fait est bon. Si ce qu'il fait est bon, c'est parce que lui-même est bon. Ça l'émane de sa nature. Tout ce que Dieu fait est bon parce que lui, c'est son être. Il est foncièrement bon. Et Satan s'est attaqué à ça. « Oh Dieu, il veut vous conter des menteries ». Il s'est attaqué à sa bonté comme si quelqu'un qui te cache quelque chose, comme s'il voulait te faire du mal, c'est pas parce qu'il est bon. Voyez-vous comment Satan avait attaqué le caractère de Dieu même? Mais ici on voit, c'est Dieu dans sa bonté. C'est quoi la bonté? C'est la disposition favorable que Dieu a envers l'homme pour le bénir en lui faisant du bien, en ayant des desseins bienveillants envers lui. Parce que Dieu démontre par l'image qu'on a ici sous les yeux, comme dit le chant, que sa bonté dure à jamais. Parce que même si cet épisode marquant de l'histoire de la rédemption est bien important, ce n'est pas la fin. Mais c'est un passage vers l'ultime démonstration de la bonté de Dieu envers l'homme, la croix du calvaire. N'est-ce pas? Et voilà la plus grande bénédiction par rapport à Abraham et sa postérité, c'est qu'un jour, Dieu promettait de pourvoir le sacrifice parfait. Et de pouvoir connaître ce Dieu qui est bon, d'expérimenter sa bonté, il n'y a pas de plus grand privilège. Et tout ça, c'est par le Dieu qui pourvoit. Donc, si on revient à la question, c'est quoi la place de cette image-là dans le plan rédempteur? Je dirais une place de prééminence. Une place de prééminence parce que ça restaure ce qui était perdu par la chute. Et ça restaure aussi un trait fondamental du caractère de Dieu, sa bonté. Ça montre que Dieu, dans sa bonté, n'a pas laissé l'humanité à elle-même, mais s'est occupé d'amener la solution par la rédemption. Et j'aimerais aussi montrer qu'il y a une place d'importance qui est accordée à la famille dans le plan rédempteur. Parce qu'à travers toute la rédemption, et on voit ici, c'est dans une famille que ces choses se passent, la rédemption s'opère à travers la famille. Et encore là, ça restaure ce qui était perdu dans la première famille, dans le jardin. De même, ce qui a été perdu puis brisé par nos blessures, nos échecs dans notre histoire familiale, et rencontré par l'espérance de la grâce de Dieu sa bonté rédemptrice. C'est ça le message de Genèse 22, qu'il y a de l'espoir. C'est ça aussi la foi d'Abraham, qui a cru à Dieu, qu'il y avait une solution, que Dieu allait s'occuper du problème lui-même. Dieu allait pourvoir. C'est notre espérance. C'est notre foi. Ça m'amène au deuxième élément que j'aimerais qu'on considère avec cette image, non seulement la place de cette image, mais la signification de cette image. Ici, la bonté de Dieu dans sa rédemption s'exprime par l'acceptation qui remplace le rejet. Rappelez-vous comment se termine l'histoire avec la chute. Il les a sortis. Puis il a même eu un ange pour pas qu'ils puissent revenir. Ils ont été rejetés, n'est-ce pas? On voit ça dans Genèse 3, 22 à 24. Mais là, ici, Abraham était accepté. Abraham crut et cela lui fut imputé à justice. Il a été trouvé agréable à Dieu par sa foi dans le Dieu qui s'est révélé à lui. Et donc, la signification de l'image qu'on a ici nous parle du caractère de Dieu, oui, dans sa bonté, mais aussi dans le fait que Dieu est véridique. Dieu est juste. Il n'a pas accepté Abraham et sa famille sur la base d'un caprice ou un passe-droit, mais sur la base légale et officielle de la substitution du sacrifice parfait. C'était Dieu qui jugeait Abraham digne de pouvoir être dans la lignée messianique, pas parce que lui avait fait, mais parce qu'il mettait sa foi dans ce que lui allait faire. Et c'est une illustration ici de la propitiation de Dieu. Ça, c'est un mot qui fait peur. Propitiation, pensez à propice. Dieu a été rendu propice par son Fils Jésus-Christ, puis Christ est notre propitiation. C'est lui qui nous rend Dieu propice. Et ce n'est pas notre imagination qui nous dit ça, c'est les faits. Christ est venu, il est mort sur la croix du calvaire, il est ressuscité, il règne maintenant à la droite de Dieu dans les lieux très hauts. Ces choses sont l'objet de notre confiance et l'œuvre parfaite accomplie par Jésus-Christ, notre Rédempteur. Donc la signification de l'image ici, c'est la fin du rejet et le début officiel de l'acceptation de Dieu en Jésus-Christ. C'est l'image de ça qui nous est transmise. Ça nous amène à regarder plus loin vers la croix. Et si vous voulez être certain, savez-vous, il y a dans Timothée une expression qui est reprise. Dans 1 Timothée au chapitre 1, ça nous dit « Cette parole est certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. » Si quelqu'un n'est pas sauvé, il peut être certain que la solution est pourvue en Jésus, le Fils de Dieu. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Et même pour les enfants de Dieu, dans 1 Timothée, mais là au chapitre 4, ça dit, c'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Voyez-vous la même expression? Mais ça dit, nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, surtout des croyants. C'est-à-dire, si on est sauvé, on est sauveur des croyants, bien, c'est parce que, savez-vous, une fois qu'on est sauvé de la pénalité de nos péchés, qu'on a reçu Jésus comme notre sauveur, Dieu nous sauve de la puissance du péché dans le quotidien. Il reste notre sauveur, il reste celui qui nous délivre de la tromperie, du péché qui nous enveloppe si facilement. Donc, c'est une bonne nouvelle, autant pour ceux qui ne croient pas encore que ceux qui croient. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçu. Dans les deux cas, on a besoin de s'approprier cette certitude par la foi, que notre acceptation par la bonté de Dieu n'est pas basée sur notre performance, mais sur celui qui a performé à notre place. Celui qui a fait ce qu'on ne serait jamais capable de faire. Si vous n'êtes pas réconcilié avec Dieu, essayez pas par vous-même. Essayez pas de le faire, mais confiez-vous en celui qui l'a fait à votre place. Confiez-vous dans celui qui a vécu la vie parfaite que personne ne serait jamais capable de vivre. Et savez-vous, c'était l'espérance d'Abraham. Écoutez un beau passage des Écritures qui nous parle d'Abraham dans sa foi. Ici, on a lu un passage qui nous exprime très puissamment la foi d'Abraham. Mais regardez un commentaire inspiré sur ce qu'il y avait dans le cœur d'Abraham. Dans Romains 4, à partir du verset 18, ça dit « Espérant contre toute espérance, il crut. Et ça parle d'Abraham ici. Et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations, selon qu'il a été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point son corps qui était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Et donc, nous marchons sur les fois, sur les traces de la foi d'Abraham, notre père à la foi. Hein, ça dit ici, il est notre père. On marche dans ces traces lorsqu'on s'approprie les promesses de la bonté de Dieu, le Rédempteur, selon la vérité qui est en Jésus-Christ. Et donc, c'est pour nous. C'est pour nous qui sommes sauvés, et c'est pour vous si vous n'êtes pas encore sauvés. Le même Dieu qui sauve, le même Dieu qui a pourvu. Et ça m'amène à la troisième et tellement importante chose que j'aimerais qu'on considère. Non seulement on a vu c'est quoi la place de cette image dans le plan rédempteur, une place de préséance, de prééminence. On a aussi vu la signification de cette image, mais j'aimerais aussi parler du coût de cette image. Le coût de ce que ça nous communique ici. Il faut bien comprendre que ce qui se passe ici dans Genèse 22, c'est un pâle reflet de la réalité dure, mais grandiose, de la croix du calvaire. Et ça nous fait apprécier l'infinie bonté de la grâce de Dieu qui a volontairement accepté de payer lui-même le prix de nos offenses, de nos péchés, qu'on a fait envers lui dans notre rébellion, puis dans notre obstination face à lui. Ça, je ne sais pas si c'est ce verset-là que notre frère a lu en priant, mais nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Et ça, c'est l'acte suprême de la bonté de Dieu. Il nous a donné ce qu'on ne méritait pas, il a été bon envers nous. Et je dirais que c'est en plein dans le mille par rapport à ce que vous savez, il y a la description ultime de l'amour dans 1 Corinthiens 13. Et savez-vous, c'est quoi les deux premières choses que ça nous dit sur l'amour? L'amour est patient, l'amour est plein de bonté. L'amour est plein de bonté. C'est-à-dire que c'est la saturation, la plénitude du fait de faire du bien. De donner du bien, de bénir l'autre, de l'aimer. C'est ça la bonté. Et ça complète la première caractéristique de cet amour agapé, qui est la patience. La patience, c'est retenir le mal qu'on pourrait donner, que l'autre même mérite. Et donc, voyez-vous comment Dieu ne nous a pas donné le mal qu'on mérite, mais au contraire, il nous a donné tout le bien qu'on ne mérite même pas. Quel amour, quel Dieu extraordinaire. Et ça, surtout quand on considère, avez-vous considéré dernièrement les aléas, les hauts et bas multiples de l'histoire de la rédemption, c'est pas jojo, là. C'est pas pour glorifier l'homme, ça glorifie la bonté de Dieu, sa patience. Comment on méritait tellement rien. Tu regardes l'histoire de la rédemption, là. Des familles dysfonctionnelles, des gens qui veulent rien savoir. À un moment donné, on va en parler dans un message plus tard, mais il y a même un roi qui a eu une malédiction sur lui que ça l'aurait amené, c'est Jéconia. Ça aurait brisé cette lignée messianique, mais Dieu, il a tout. Comme Dieu fait toujours, il a tout arrangé pour que ça continue et nous amener à Jésus-Christ. Parce que les aléas, les hauts et les bas de cette histoire rédemptrice nous montrent comment la honte, la peur, le rejet de Dieu ont été là tout le long, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Et ça montre vraiment comment, justement, on ne peut rien mériter devant Dieu. On peut juste se réfugier dans sa bonté, dans sa grâce qui est en Jésus-Christ. Quelle valeur refuge! Des fois, vous vous sentez peut-être, ça ne va pas trop bien. Vous avez des journées difficiles. Des fois, il y a des semaines difficiles. Je dirais pour moi, cette semaine, ça a été une semaine plutôt éprouvante. Comment c'est toujours agréable, c'est toujours bon de se réfugier dans la patience puis la bonté de Dieu. Ouh! Il y en a d'autres! J'aimerais vous rappeler ce qu'un gars qui a eu bien de la misère, qui a eu des bouts vraiment difficiles, notre ami Jérémie dans les Lamentations. Écoutez les trois choses qui repassent dans son cœur pour lui redonner de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande! L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Voyez-vous, la bonté, la compassion, puis la fidélité de Dieu. Savez-vous quoi? Juste de méditer là-dessus, de saturer notre cœur de ça. On n'a pas besoin d'autre chose quand ça va mal. En fait, c'est de ça qu'on a besoin, plus que toute autre chose. De repenser ça dans nos cœurs, c'est ça qui va nous donner de l'espérance. Savez-vous, quand quelqu'un a un goût d'abandonner, quand quelqu'un est au bout du rouleau, c'est parce qu'il a perdu espérance. Mais Dieu se révèle dans la parole comme étant le Dieu de toute espérance, le Dieu de toute grâce et le Dieu de toute espérance. Quel réconfort d'autant plus grand de savoir comment ça a coûté à notre Dieu pour nous faire bénéficier de cette grâce, nous inonder, nous submerger de sa bonté. Ça a coûté Dieu le Fils qui vienne. Prendre un corps, être rejeté, méprisé, abandonné des hommes, mourir à notre place, lui juste pour les injustes. La question, c'est qu'est-ce que tu fais avec ce sacrifice qui a tant coûté? Je l'ai cité tantôt, mais je vous le recite encore. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Savez-vous quoi? Un verset comme ça, puis tant d'autres dans la parole, nous montre que Dieu ordonne, c'est pas une suggestion, Dieu ordonne à ceux qui ne croient pas de croire en son Fils, en son sacrifice. C'est pas une suggestion, c'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs qui a envoyé son Fils, puis qui dit « Croyez en lui, c'est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Vous devez, si vous n'avez pas mis encore votre foi, mettre votre foi en Jésus seul pour le salut de votre âme. Et écoutez maintenant 1 Jean 3,16. Les chrétiens qui sont ici, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Ça a sorti dans le temps de prière. Vous savez, quand Abraham était prêt comme ça, on l'a vu, à offrir son fils, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à ses serviteurs, « Restez ici, moi et mon fils, on va aller faire quoi? » Adorer. On vit dans un temps où est-ce que la notion d'adoration est tellement égocentrique qu'on en perd la valeur biblique. Maintenant, l'adoration, c'est l'idée, c'est moi, puis moi j'adore, puis c'est pas l'idée qu'on n'est pas béni quand on adore, puis ça remplit pas notre cœur de joie. Mais on s'adore pas nous-mêmes. On adore Dieu, puis aussi, il y a un coût à l'adoration. Il s'en allait offrir son propre fils, puis il dit « Je m'en vais adorer ». Pourquoi? Parce qu'il allait par la foi, parce que la phrase d'après qui dit « Et nous allons revenir ». Il savait que Dieu allait s'occuper. Il s'en allait adorer ce Dieu qui pourvoit. Il allait lui rendre hommage. Il allait donner la démonstration suprême pour lui dans sa vie de sa confiance en Dieu. Donc pour nous, c'est l'appel de la sanctification de la foi. Et oui, il y a un prix. Ça coûte de quoi se confier à Dieu? C'est-à-dire que, puis là, je ne parle pas des œuvres que je fais ci, je fais ça, c'est que ça coûte de s'humilier pour nous confier dans la sagesse de Dieu et non pas la nôtre. De ne pas s'appuyer sur notre sagesse, mais de reconnaître Dieu dans toutes nos voies parce que c'est lui qui va aplanir nos sentiers. Et donc, c'est un appel de Dieu à répondre à son amour. Lui qui nous a aimés le premier. Lui avec qui nous a montré de tellement grande compassion. Qui nous exhorte à offrir nos corps en sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, c'est notre culte raisonnable. Ou pour le dire dans les mots de 2 Corinthiens 4, 5, 14, car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Je termine avec un verset, deux versets en fait, par rapport à Christ et son œuvre, et pour appliquer ça à nous ce matin. Encore dans 2 Corinthiens chapitre 5, versets 20 et 21, « Nous faisons donc fonction d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions. » Au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Si vous êtes ici, vous n'êtes pas encore réconciliés, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas la façon d'être réconcilié. Dieu a déjà pourvu. Nous vous en supplions, confiez-vous en Christ qui est le moyen pour être réconcilié avec Dieu. Puis écoutez ce que ça dit dans le verset suivant. « Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » J'aimerais que vous remarquiez dans ce verset-là que je viens de lire, verset 21, la bonté de Dieu qui a mis fin au rejet de Dieu par l'homme et de l'homme par Dieu. Parce que Dieu doit rejeter l'homme qui demeure dans son péché, parce que Dieu n'a pas de communion avec le péché. Et l'homme étant dans son péché aussi, rejette Dieu. Mais Dieu a mis fin lui-même à ça en Jésus-Christ, par son Fils, pour que nous puissions être acceptés en lui. Donc, l'image qu'on a vue ce matin, c'est celle de la manière par laquelle Dieu répond parfaitement à ce besoin profond que nous avons d'être acceptés, d'abord par Dieu. Parce qu'on vit dans un monde où est-ce qu'on a vécu, puis on pourrait faire le tour ici, ça serait très long. Mais comment de façon qu'on a été rejeté? Et qu'on a aussi rejeté les autres. C'est un gros dossier, ça. Je suis en train de lire un livre là-dessus. Sur le rejet. Même des fois, on dit ça, « Ah, lui, c'est un rejet. » Une fois, quand c'est devenu ton identité, que les autres te disent, « C'est ça ce que t'es. » C'est pas drôle, là. Quand c'est toi le rejet, là, tu ris pas avec ça, c'est pas drôle, là. Mais justement, ça montre comment c'est précieux d'avoir ce Dieu qui reçoit. Il y a même un cantique en anglais, « Christ receiveth sinful men. » Il les reçoit. Puis Jésus a dit, « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » C'est la fin du rejet. Et c'est pas basé sur n'importe quoi. C'est la fin du rejet face à Dieu, face à autrui, parce qu'on est accepté sur la base de ce que lui a fait et non pas sur ce que nous, on aurait pu faire. Et ça, mes amis, si vous ne l'avez pas reçu, vous avez simplement à placer votre foi dans le Dieu qui l'offre. Vous confiez dans le moyen que Dieu a donné pour recevoir sa bonté, c'est en Jésus-Christ. La question, c'est pas est-ce que c'est possible ou non, c'est plutôt est-ce que je m'humilie pour le recevoir. Puis c'est mon dernier mot ce matin, l'humilité. Ouais, rappelez-vous, on a vu ça, les gars, ensemble. C'est quoi le verset que ça dit qu'on a vu dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 5, puis dans Jean, verset répété deux fois, puis qui vient de l'Ancien Testament? Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. On ne peut pas aller nulle part avec l'orgueil. L'orgueil nous bloque l'accès à Dieu. Mais lorsqu'on s'humilie, on s'humilie pour nous confier en Dieu. L'humilité va avec la foi, comme l'amour va avec la vérité. On s'humilie devant Dieu pour être disposé face à son amour, répondre à son amour, et à cause de ça, on se confie dans le Dieu qui est bon, qui nous a comblés pour nous satisfaire, nous donner absolument tout ce dont nous avons besoin en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors, je vous invite simplement à venir à ce Dieu qui est vrai, qui est bon, parce qu'il nous accepte, qui a mis fin au rejet. Et savez-vous quoi? Je vais prendre une phrase qui va nous venir dans le prochain message. Venez vous réfugier sous son aile, comme Ruth l'a fait. Seigneur, oui, on te remercie parce que tu es vrai, tu es bon. Et oui, on vient se réfugier sous ton aile. Ah, et on va le voir la semaine prochaine. Ici, on a vu un exploit de la foi avec Abraham. Mais quelle confession de foi aussi de ta servante, Ruth, qui a décidé d'abandonner son peuple pour aller vers toi, en disant, « Ton peuple sera ton peuple, ton Dieu sera mon Dieu. » J'espère que tout le monde ici peut dire en esprit, en vérité, l'Éternel est mon berger, il est mon Dieu. Or, que les enfants qui sont ici élevés dans une famille chrétienne, que le Dieu de leurs parents soit leur Dieu. Seigneur, travaille dans les cœurs. Ô Père, ta délivrance dans tes enfants. Seigneur, merci que tu as tout pourvu. On veut se réjouir, se reposer dans ta bonté. Merci que, on l'a vu ce matin, tu es le Dieu qui pourvoit. Ah Seigneur, on ne veut pas juste entendre ces choses et qu'elles produisent rien dans notre vie. On veut se confier, Seigneur, dans ce que tu nous montres. On veut répondre par la foi. Donc Seigneur, bénis ce temps de prière, de réponse de ton peuple à ce que tu viens de nous partager ce matin dans ta parole. On te prie ces choses au nom de Jésus. Amen.